Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans Décolonisation, le podcast qui parle des colonisations et des empires. On est deux à avoir préparé cette série, et comme dans chaque épisode, on vous dit qui on est et d'où on parle.
Moi, c'est Aliénor, je suis une femme non racisée. Aujourd'hui, je suis postdoctorante en sociologie. Ça veut dire que j'ai terminé ma thèse et que j'ai un CDD dans la recherche. J'ai fait ma thèse sur l'immigration algérienne en France métropolitaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, j'ai travaillé dans la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, je fais partie d'un programme de recherche sur les attentats du 13 novembre 2015.
Et moi, c'est Sarah. Je suis aussi une femme, non racisée, docteur en histoire. J'ai terminé et soutenu ma thèse en décembre 2021. Et je suis enseignante dans un lycée du Val-de-Marne et à l'université PSL, à Paris. En parallèle, je poursuis mes recherches sur les mobilités étudiantes en Asie coloniale, notamment en Indochine française et en Inde britannique au 19e et 20e siècle. Et puis en ce moment, je travaille principalement à la publication de ma thèse.
Dans la série introductive, on a voulu vous donner les outils pour comprendre les discussions scientifiques et les débats politiques sur les colonisations. Pour cette série thématique, dont vous écoutez le premier épisode, on a décidé de parler de l'enfance, ou plutôt des enfances, au pluriel, dans les différents contextes coloniaux. Ça peut ne pas paraître évident, que ce soit pour les historiens et les historiennes, ou pour d'autres personnes intéressées par l'histoire des colonisations, que de commencer par parler de l'enfance et des enfants. Quand on pense à la colonisation, on pense plus spontanément à des guerres et des soldats, à des explorateurs ou des missionnaires, à l'esclavage, à l'accaparement des terres agricoles par les colons peut-être. Toutes choses causées par des adultes. Par des adultes, dans l'immense majorité des hommes adultes blancs. Bref, on pourrait se dire que la colonisation, c'est pas une affaire d'enfant. Et pourtant, il faut pas y songer bien longtemps pour se rendre compte que tout cela, bien entendu, les enfants le vivent, le subissent. Que bien souvent ils en sont les victimes. Mais alors, être enfant en situation coloniale, ça veut dire quoi ?
Tout ce qui touchait de près ou de loin aux blancs et à leurs affaires, y compris leurs balayures ou leurs ordures, était tabou pour les nègres. On ne devait ni les toucher, ni les regarder. Or, un jour, j'entendais le cordonnier Ali Gomni déclarer que les excréments des blancs, contrairement à ceux des Africains, étaient aussi noirs que leur peau était blanche. Je rapportais sans tarder cette étrange information à mes petits camarades. Une discussion s'ensuivit, si violente que l'on faillit en venir aux mains. Daouda et moi étions toujours du même avis, tandis que nos camarades Afo Diagne, Amadou Mboye Narou et Mamadou Gorel s'opposaient violemment à nous. Daouda et moi étions extrêmement blessés par les critiques insultantes de nos camarades. La seule manière de les confondre était d'aller nous assurer par nous-mêmes de la réalité des faits, quitte ensuite à exiger un règlement de compte avec nos contestataires. Les Blancs avaient leur quartier d'habitation sur la rive gauche du Yahamé, et les indigènes de Bandiagara sur la rive droite. Un grand pont de pierre séparait les deux agglomérations. On appelait le quartier des Blancs Sinsi, c'est-à-dire instauré. N'y vivaient que les Blancs eux-mêmes et leurs principaux auxiliaires indigènes. Sinsi était étroitement gardé. Les indigènes qui s'aventuraient à Sinsi sans y être officiellement invités risquaient la prison ou, au minimum, de sérieux coups de cravache. Or, on ne pouvait trouver des excréments de Blancs qu'à Sinsi, et Daouda et moi voulions à tout prix vérifier leur couleur de nos yeux. Ce fut vite décidé, nous irions à Sinsi, dans l'antre du fauve, et advienne que pourra. Si notre entreprise était connue de nos parents, à coup sûr, ils nous l'auraient interdite en nous empêchant de sortir de la maison. Mais notre secret fut bien gardé. Un matin de très bonne heure, Daouda et moi nous retrouvons trottinant sur le chemin menant au Yahamé. Cachés par les hautes herbes, nous nous approchons et nous y postons pour explorer les lieux, quand un événement inespéré vient faciliter notre entreprise. Une file de prisonniers enchaînés s'avance, chacun d'eux portant sur la tête un grand seau. Escortés par un garde de cercle armé, ils se dirigent vers un grand trou que l'on devine un peu plus loin. Nous nous regardons ébahis. Mais ce sont les excréments des Blancs que les prisonniers transportent là. Et effectivement, nous voyons les prisonniers vider à tour de rôle le contenu de leur seau, comme ils le font d'ailleurs chaque jour, dans le grand trou aménagé spécialement pour recevoir les excréments des Blancs, sans doute trop précieux pour être mélangés à ceux des Noirs. Même en observant la scène de loin, nous sommes vite convaincus. Les Blancs déposent mous et noirs, C'est la preuve que nous avions raison.
Ménard vous a lu un extrait d'Âme Coulel, l'enfant Peul, issu des mémoires d'Amadou Ampateba. Il y raconte son enfance, dans l'extrait il a 7 ou 8 ans, en Afrique occidentale française, l'AOF, et plus précisément au Mali. On a choisi cet extrait parce qu'il montre plusieurs aspects de ce qu'a pu être une enfance singulière dans une situation coloniale particulière. Ici, les enfants colonisés ne vivent pas avec les Blancs, mais ils peuvent les voir de plus ou moins loin et y penser beaucoup. Ils ne les connaissent pas intimement, ils se posent donc des questions sur ces êtres étranges comme « ont-ils les mêmes excréments qu'eux-mêmes ?» Dans cet extrait, Âme Coulel et Daouda sont à la fois curieux et incrédules. Et surtout, pour satisfaire leur curiosité et explorer le monde des Blancs, ils doivent agir hors de la sphère de contrôle des adultes. Parce que l'enfance, c'est d'abord ça, un moment particulier de la vie où l'on est soumis aux adultes. Ce moment particulier, il suit la naissance et aujourd'hui on le fait généralement durer jusqu'à l'adolescence. Étudier les enfants et leur histoire, c'est donc travailler sur des individus âgés d'entre 0 et 13, 14 ou 15 ans grosso modo. L'âge de la sortie de l'enfance peut être discuté, et puis l'enfance peut être divisée en plusieurs étapes, avec la petite enfance, entre 0 et 5 ans par exemple. Bref, dans tous les cas, on s'intéresse à des individus dans la première partie de leur vie.
Depuis quelque temps, des travaux font de l'enfance un objet d'étude. D'ailleurs, ils associent parfois enfance et jeunesse. C'est le cas des Childhood and Youth Studies dans le monde anglo-saxon. Et puis il y a aussi des sociologues, comme Wilfried Ligné en France par exemple, qui enquêtent dans les cours de récréation en échangeant avec des enfants. En histoire aussi, on s'y intéresse. Par exemple, Éric Alary a publié récemment « Histoire des enfants de 1890 à nos jours ». En philosophie politique aussi, certains et certaines cherchent à comprendre et à conceptualiser en quoi l'enfance est une position politique dans un système de domination. L'enfant se trouve dans une situation de minorité vis-à-vis de ses parents, de ses tuteurs et de la société en général. En fait, ça paraît évident. Qui est plus dominé, soumis, vulnérable qu'un enfant? Donc ça, c'est un premier point. Parler de l'enfance en colonisation, c'est parler de l'articulation des dynamiques et des pratiques de domination. C'est chercher à voir comment cette domination de l'enfant se mêle à la domination coloniale.
Et puis, il y a une autre raison pour laquelle c'est important de parler de colonisation et d'enfance. Bah oui, tout être humain est un enfant un jour. D'ailleurs, dans les sociétés coloniales, on trouve des enfants colonisés, comme Âme Coulel et Daouda, mais on trouve aussi les enfants des colonisateurs. Ils peuvent être nés en métropole ou dans la colonie. C'est le cas de l'écrivaine Marguerite Duras, qui est née à Zadine, en Cochinchine, en 1914. Il y a aussi les enfants des étrangers, occidentaux ou non. Par exemple, en Asie coloniale, on trouve une importante diaspora chinoise, avec notamment des écoles spécifiques pour ces enfants. Et puis, il y a les enfants de l'entre-deux, celles et ceux qu'on appelle les métis, dont on vous parlera plus spécifiquement dans un prochain épisode.
Dans tous les cas, comprendre la vie des femmes et des hommes, celles et ceux qui ont colonisé comme celles et ceux qui ont été colonisés, implique de chercher à comprendre ce qu'ont été leurs enfances. Que signifie être élevé dans une société où ses parents n'ont pas les mêmes droits qu'un autre groupe de la population? Peuvent être humiliés, exploités, dans certains contextes vendus. Ou, à l'inverse, être à l'origine de ces humiliations, de cette exploitation. Et que cherchent à faire les puissances coloniales de ces enfants? Les colonisés d'un côté et les enfants de colons de l'autre. Quels sont leurs plans pour elles et pour eux? Parler des enfants en situation coloniale paraît en fait fondamental, nécessaire. Mais il y a un biais de l'histoire, le biais de l'histoire coloniale, celui de l'écriture de l'histoire des dominés, que les chercheurs et chercheuses appellent aussi les subalternes. Par construction, elles et ils n'ont pas voix au chapitre. Leur vie ne laisse pas de traces, ou à peine. Elles et ils n'écrivent pas, ou peu. Si des documents administratifs les concernent, la plupart du temps, il n'en reste que l'état civil, souvent un état civil d'ailleurs approximatif et imposé par l'administration coloniale. Et en plus, c'est pour documenter des événements hors du commun, pas leur quotidien.
Tron, c'est Tonya au chant et Rachid à la guitare, l'ordi à la rythmique. Et c'est du rock'n'roll pour tous les enfants du monde. Qu'on soit blond ou brun, qu'on soit africain, fille ou garçon, libre ou en prison. Qu'on soit riche ou pauvre, chevelu ou chauve, qu'on soit rhum ou bien migrant, tous pareils, tous différents. On cassera les murs et les frontières, car dans notre monde, y'a pas de barrière, y'a pas de barrière, y'a pas de barrière, y'a pas de barrière. Moi et mon père, on joue dans Pit Bay, on fait des concerts.
l'a compris, documenter l'enfance est une entreprise rare. La documenter du point de vue des enfants, plus rare encore. Documenter le point de vue des enfants des subalternes, dans l'ensemble, ces bouts de vie sont oubliés, c'est tout. Bon, il existe quand même des sources qui parlent de certaines choses, des recherches sur certains sujets et qui concernent les enfants et l'enfance. Dans notre groupe de recherche, le GROC, plusieurs chercheuses travaillent sur l'enfance et donc sur des sources spécifiques à celle-ci.
Bonjour, je m'appelle Lydia Adjamed et je suis docteur en histoire de l'Université Paris-Nanterre. J'ai soutenu ma thèse sur l'histoire de la scolarisation des enfants algériens au temps de la guerre d'indépendance entre 1954 et 1962. Cette enquête se situe au croisement de l'historiographie de l'enfance en guerre et de l'historiographie de l'éducation. Et elle entend contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire de l'enfance en situation coloniale à travers la restitution des vécus scolaires des enfants, mais aussi bien sûr de leurs expériences de la guerre. À ce titre, j'ai déployé notamment une vaste enquête orale auprès d'adultes qui étaient enfants pendant la guerre, mais j'ai aussi cherché à restituer la parole des enfants quand ils étaient enfants au moment des faits, en ayant recours à des dessins, c'est-à-dire à des productions enfantines qui permettent notamment de dépasser la difficulté à retrouver des sources du fort privé, telles que journaux intimes, par exemple.
Je m'appelle Violette Dolin et ça fait maintenant 2 ans que je travaille sur la question des métisses d'Indochine. Et c'est une question qui s'aborde sous le prisme de l'enfance, puisque c'est à ce moment-là de la vie des individus métis que l'on détermine s'ils sont aptes ou non à obtenir la citoyenneté française. On peut lire dans les sources administratives émanant des associations qui ont pris en charge ces enfants dès la fin du 19e siècle qu'il est important que ces enfants soient malléables afin d'en faire de réels citoyens français. Ils parlent donc français au sein des institutions et sont intégrés au système scolaire français. Il y a un autre type de sources que l'on peut obtenir sur ce sujet, qui sont les sources individuelles émanant des associations de mémoire qui se sont constituées en France une fois que ces enfants étaient devenus adultes et avaient besoin de se retrouver, puisqu'ils ont été élevés ensemble pour beaucoup. Et donc ce sont des sources individuelles, ce qui est assez rare quand on aborde la question de l'enfance. Ça reste évidemment des adultes qui font une rétrospective sur leur enfance, mais ils parlent beaucoup donc de ces moments, du déracinement qu'ils ont vécu au moment du départ d'Indochine, du changement de climat et de langue, ce qui en fait des sources très intéressantes à aborder lorsqu'on est un historien qui s'intéresse à l'enfance.
À côté de ces recherches spécifiques, nous sommes nombreux et nombreuses à croiser des enfants au fil de nos archives. Moi, par exemple, dans mes archives liées à la mobilité étudiante, j'ai croisé des enfants boursiers, parce que ces jeunes que j'étudie ont parfois commencé à bouger quand ils et elles étaient encore enfants. Et mes recherches ne sont pas un cas isolé, comme vous pouvez l'entendre.
Et oui, moi, Adélaïde, je croise les enfants de différentes manières dans les sources que je consulte au sujet de l'histoire de l'esclavage dans les Antilles françaises au XIXe siècle. La première façon que j'ai de les croiser, c'est via les registres d'état civil. Je trouve généralement que les enfants meurent beaucoup. Mais ce qui est frappant, c'est de constater que les enfants de milieux très privilégiés et donc des enfants d'esclavagistes meurent beaucoup et en bas âge. La deuxième manière que j'ai de les croiser, c'est dans des récits autobiographiques rédigés par des colons esclavagistes ou des descendants de colons. Ces récits mettent parfois en scène des épisodes de jeux entre enfants, c'est-à-dire entre enfants blancs et enfants noirs, et on voit à travers ces jeux comment se construisent les rapports de force, les rapports de domination dès la plus tendre enfance.
Moi aussi, Maria Berdam, je m'intéresse aux enfants en situation coloniale, notamment au Cambodge, protectorat français de 1863 à 1953. Je croise en particulier dans les archives des photographies d'enfants et d'adolescents datées de la fin du 19e siècle, par exemple des petits garçons, des jeunes filles, qui portent des costumes les identifiant comme des membres de la famille royale du Cambodge, mais dont on ignore les noms et donc la biographie.
Je suis Thierry et je croise aussi l'enfance dans mes sources. J'étudie les politiques de construction de logements sociaux dans l'Algérie des années 20 aux années 60. Dans ce cadre, deux types de discours sur l'enfance émergent. D'une part, l'idée de bâtir des logements pour que s'épanouissent des familles nombreuses européennes, à la fois en phase avec le natalisme en vogue durant toutes ces années et le projet de peuplement de la colonie par des Européens. D'autre part, l'idée de sauver l'enfance de ceux alors qualifiés de musulmans par l'administration. Le moment le plus important de cette politique-là est la guerre de libération nationale, moment lors duquel les autorités françaises tentent de se gagner la population algérienne.
Et pour moi, Élise, il n'y a pas d'enfants dans beaucoup des archives que j'utilise. C'est des journaux politiques, des rapports de surveillance policière sur, par exemple, des réunions du Parti communiste de Tunisie. Mais j'ai croisé d'anciens enfants, des fils et des filles, des militantes sur lesquelles je travaille, avec qui j'ai fait des entretiens. Je leur pose des questions sur leur mère, ça les amène à me raconter leur enfance. D'une certaine manière, ce sont toujours des enfants.
Bref, vous le voyez, même si l'enfance n'est pas au cœur des travaux, en fait, on la retrouve partout, sur plein de sujets. Par exemple, on la retrouve dans un débat politique récurrent. Qu'est-ce qu'a apporté la colonisation aux populations colonisées ? C'est une obsession, vouloir dire qu'il y a eu des côtés positifs à la colonisation. On entend ça dans tous les discours politiques, de droite et d'extrême droite, et même à gauche parfois. Quels ont été les apports de la colonisation ? Alors, l'école ? Ah oui, vraiment, l'école ? Alors voyons ça. C'est ce dont on va vous parler maintenant.
Je devais avoir 7 ans environ, quand mon père quitta Porbandar pour Rajkot, où il entra au tribunal rajasthanique. On m'envoya à l'école primaire, et je me souviens parfaitement de cette époque, comme des noms et des traits particuliers des maîtres qui m'enseignèrent. De même qu'à Porbandar, rien de bien remarquable ne signale mes études dans cette ville. Je n'ai pu être qu'un élève médiocre. De cette école, je passais dans une autre, située en dehors de la ville, puis de là, au lycée, alors que j'avais déjà 12 ans. Je ne me souviens pas d'avoir jamais menti au cours de cette brève période, tant à mes maîtres qu'à mes camarades. J'étais très timide et j'évitais toute société. Je n'avais pour tout compagnon que mes livres et mes leçons. J'arrivais ponctuellement en classe, je rentrais en courant à la maison, sitôt les cours terminés. C'était là pour moi une habitude de tous les jours. Et si je rentrais en courant, littéralement, c'est que je ne pouvais supporter de parler à personne. J'allais jusqu'à craindre qu'on ne se moquât de moi. Il est un incident qui survint à l'examen que je passais au cours de ma première année de lycée et qui mérite d'être rapporté. Mr. Giles, l'inspecteur, en tournée, était venu nous rendre visite. Il nous avait dicté 5 mots pour éprouver notre orthographe, parmi lesquels « bouilloire ». J'avais fait une faute. Le professeur essaya de venir à mon secours, me faisant signe du bout de son soulier, mais je m'y refusais. Je ne pouvais concevoir qu'il eût envie de me voir copier le mot sur l'ardoise de mon voisin. Je croyais que le professeur était là pour nous empêcher de copier. Il en résulta que tous les enfants, sauf moi, se trouvèrent n'avoir pas fait de faute. Seul, j'avais été stupide. Plus tard, le professeur tenta de m'expliquer ma stupidité, mais en vain. Je n'ai jamais pu apprendre l'art de copier.
Dans cet extrait, Mohandas Gandhi, celui que vous connaissez sans doute pour sa lutte non violente contre le colonisateur britannique en Inde, se souvient de son enfance. Il raconte surtout sa scolarité. École primaire, puis formation secondaire, puisqu'il rejoint un lycée. Il suit un cursus organisé par les Britanniques, mêlant savoirs locaux, il apprend notamment le Gujarati, et savoirs occidentaux, puisqu'il passe l'English First Standard. Bref, au premier regard, cela donne l'impression que les colonisés ont accès à l'enseignement grâce aux initiatives ici d'Européens. Mais cet extrait, il permet aussi de nuancer tout ça. Déjà, la famille de Gandhi fait partie de l'élite indienne. Il grandit en milieu urbain, son père travaille au sein d'une cour de justice au Rajasthan, à Rajkot. Et ça, les historiens et historiennes l'ont montré. La scolarisation dans les colonies, britanniques ou non d'ailleurs, reste destinée à des élites dites acculturées, et d'une manière générale, elle est très limitée. Dans les années 1930, le taux de scolarisation primaire ne dépasse pas 22% dans le Raj britannique. Il atteint péniblement 20% en Indochine française, tandis qu'il est de 5% au Kenya, lui aussi britannique, ou au Mozambique, sous colonisation portugaise. Les chiffres sont encore plus faibles pour le secondaire et le supérieur. Seuls ce qu'on appelle les vieilles colonies, c'est-à-dire les Antilles, s'en sortent mieux. 50% des enfants antillais sont scolarisés. C'est aussi le cas des petites colonies, comme Pondichéry en Inde française avec 33%, ou Ceylan, l'actuel Sri Lanka.
D'ailleurs, les enfants qui vont à l'école, ce sont essentiellement les garçons. L'instruction féminine, même si elle peut progresser, c'est le cas en Inde, elle reste d'une part très limitée, et puis d'autre part, elle est rarement le fruit de mesures des pouvoirs publics. Ce que montre aussi le récit de Gandhi, c'est la manière dont l'école peut être un outil de contrôle de la population colonisée, plus qu'un outil d'émancipation ou d'épanouissement intellectuel. C'est pas quelque chose qui est propre aux colonies et à la fin du XIXe siècle, mais on le voit bien ici. Les élèves doivent acquérir un savoir précis qu'on leur impose, dans le cas présent, la langue anglaise. Le choix du mot est d'ailleurs assez parlant. Kettle, soit bouilloire, cela fait penser au thé, un des symboles de la culture coloniale britannique. Alors, on peut pas vérifier la véracité des souvenirs de Gandhi, mais en tout cas, c'est clair. Le système éducatif dans les colonies doit, avant tout, modeler des colonisés loyaux au service du colonisateur.
Et ce genre de témoignage sur le passage par l'école d'enfants colonisés est loin d'être unique. Des personnes qui ont connu ce type d'enseignement sont encore en vie aujourd'hui. Écoutez.
Moi, je vais à l'école primaire puis au lycée, je n'apprendrai jamais rien sur mon pays, mais rien, mais rien.
On nous apprenait à connaître tous les grands fleuves de la France, leur débit, leur longueur, leur navigabilité. On allait même jusqu'à apprendre quel est le poids de pain mangé par un Français à l'année.
Avec les livres que nous avions en plus, tous les livres magnifiaient normalement le colonisateur. Puisque d'abord, c'est lui qui écrivait les livres. Et donc, on entrait dans l'histoire à travers les livres.
Dans cet extrait, la chercheuse française Françoise Vergès, l'animateur de radio ivoirien Soro Solo, puis le musicien camerounais Manu Dibango, soulignent que l'école est un outil de la colonisation. Et en même temps, ce système éducatif imposé par le colonisateur, il peut être accepté, utilisé, ou à l'inverse, rejeté et évité par les élites locales qui le négocient. Et ça, notamment parce que les écoles, l'instruction préexiste aux conquêtes coloniales, dans tous les territoires qui passent sous domination occidentale ou japonaise au XIXe et XXe siècle, même si l'histoire des colonisateurs l'a longtemps ignorée, volontairement ou non.
Parce que, contrairement à ce qu'on a essayé, et essaye encore de nous faire croire, la transmission du savoir et des connaissances, c'est pas quelque chose de nouveau dans les sociétés coloniales. Et c'est pas quelque chose de spécifiquement européen. Elle pouvait être écrite ou orale, comme dans de nombreuses sociétés d'Afrique subsaharienne ou océanienne, religieuse ou même laïque. Elle pouvait englober des niveaux d'enseignement supérieurs, en Indochine par exemple, c'est le cas avec les concours mandarinaux, qui permettent de devenir des fonctionnaires à la cour vietnamienne. Un autre exemple, qui est d'ailleurs bien connu, il y a même eu une exposition dessus il y a quelques années, est celui de l'Algérie, comme nous l'explique Charlotte Courreil.
Pour ce qui concerne les écoles en Algérie, on avait déjà avant la colonisation un système d'écoles coraniques, notamment dans les zaouias des confréries, et pour les juifs des écoles rabbiniques. Et donc quand les Français prennent possession de l'Algérie en 1830, en fait il y a à la fois... pour la partie musulmane, des écoles coraniques qui sont souvent liées donc à la zaouïa ou à la mosquée, où on apprend le Coran, on apprend à lire et à écrire en arabe, mais aussi des écoles, des madrasas, donc des écoles de niveau un peu plus élevé et qui souvent sont destinées aussi à des familles plus aisées. Et la plupart de ces écoles étaient financées par les biens habous, c'est-à-dire les fondations pieuses, donc des biens collectifs qui, au moment de l'administration par la France de l'Algérie, ont été réquisitionnés, puisque la France a administré l'islam dans l'Algérie colonisée. Pour ce qui concerne donc l'école française et la façon dont les écoles se sont diffusées dans la colonie, on a d'abord un premier système jusqu'à la Troisième République, en fait. Voilà, où on amorce un certain nombre d'écoles arabes françaises pour essayer d'amener des indigènes vers des postes d'auxiliaires de colonisation, des choses comme ça. Et puis à partir de 1871, s'instaure un système centralisé qui est mis en place par l'administration française sur le modèle de la métropole, avec toutefois entre 1881 et 1949 deux types d'enseignement, un enseignement indigène et un enseignement européen. L'enseignement européen étant réservé aux enfants qui savent le français lors de l'entrée à l'école, et l'enseignement indigène réservé aux enfants indigènes, comme son nom l'indique. Donc on a une séparation scolaire qui est une forme de ségrégation, surtout dans les villes, ce qui est moins le cas pour les milieux ruraux, parce qu'il y avait moins d'élèves et donc des enjeux un petit peu différents pour remplir les écoles. Ce qui est important, c'est de voir que dans tous les cas, avant la Première Guerre mondiale, il y a assez peu de demandes d'écoles de la part des musulmans, parce qu'on s'en méfie plutôt. Mais après la Première Guerre mondiale, cette défiance évolue vers plutôt une demande d'école pour les enfants, parce qu'on se rend compte de ce que ça représente comme capital social et possibilité d'évolution dans la société. Et ça correspond aussi, dans l'entre-deux-guerres, à un changement de la politique scolaire qui a beaucoup évolué pendant toute la période coloniale, en réalité, avec une volonté de recentrer dans les villes et d'augmenter le nombre de musulmans à l'école française. Bon, ça, c'est la volonté affichée. En réalité, on a des travaux qui montrent qu'il y avait moins de 10% des enfants musulmans en âge d'être scolarisés qu'ils l'étaient en 1937. On a d'autres travaux pour la période des années 40 qui montrent voilà, des statistiques assez similaires. Et donc, on a dans le même temps, en fait, dans les années 30 et 40, des écoles par les musulmans algériens qui se développent, donc à la fois ces zaouïas des confréries soufis que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi des écoles de l'islam réformiste, donc de l'association des oulémas musulmans algériens qui se développent et qui se structurent jusque dans les années 50 pour enseigner non seulement l'arabe et la religion musulmane, mais aussi du calcul, de l'histoire géo, des leçons de choses. Et ces écoles sont en général placées, enfin les horaires de ces écoles sont soit avant, soit après l'école française pour permettre aux enfants potentiellement de suivre les deux cursus, ce qui est extrêmement rare en réalité puisque, comme on l'a vu, on a très peu d'enfants musulmans algériens qui vont à l'école française. Et ces politiques de scolarisation ont été réformées à partir de 1949, donc on supprime l'enseignement spécial aux indigènes, on fusionne les deux régimes dans une politique, dans la fin des années 40, début des années 50, de réformes accélérées dans le cadre de la montée en fait, du nationalisme et de la politisation des populations et des réactions au traitement par la France coloniale des Algériens. Et donc, on a voilà, une sorte de réaction décalée, trop tardive, face à la demande d'école qui avait été exprimée dans les années 20 et 30, qui arrive que dans les années 50, au moment même où, en fait, les Algériens sont déjà passés à la phase de la lutte contre le colonisateur.
Ces écoles antérieures à la colonisation, elles ne disparaissent pas au cours de la période coloniale. Certains enfants continuent d'en bénéficier. En fait, l'école, ce n'est pas que l'affaire des autorités coloniales. Les élites locales y prennent part, mais aussi d'autres acteurs, comme les missionnaires. Bref, dire que le colonisateur a éduqué les populations qu'il a soumises, c'est très 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 discutable. En fait, cette idée d'éducation par le colonisateur, ça se rattache à ce qu'on appelle l'argument civilisateur. Cette idée, celle que la France et les Européens ont apporté la civilisation dans les colonies, en particulier à travers l'école, est un des arguments récurrents pour soutenir la colonisation, et ce à partir de la fin du XIXe siècle, comme on a pu le voir dans les épisodes de la première série de ce podcast.
Cet argument ressurgit régulièrement, même s'il est rejeté par les historiens et les historiennes. Donc, pour le dire clairement, oui, les colonisateurs ont ouvert des écoles. Non, la colonisation n'a pas apporté l'école. C'est d'ailleurs une constante de ce sujet. On sait très bien ce qu'il en est. Mais dans l'espace public politique, médiatique, on ne cesse de redécouvrir le poteau rose. On peut penser que c'est parce que, bien qu'on sache que des systèmes éducatifs ou de transmission existaient avant la colonisation, perdre l'argument de l'école met un sacré coup dans la belle idée du rôle positif de la colonisation. La réalité, c'est que cet argument paraissait déjà loufoque sous la colonisation, comme l'indique Bachir Hadjadj, qui en parle dans un documentaire sur la guerre d'Algérie.
Je me rappelle très bien, c'était la France a apporté la civilisation en Algérie. Bref, tous les bienfaits de la colonisation, il fallait les expliquer. C'était d'une pauvreté et d'une ânerie inimaginable. Comme je me demande comment des officiers français ont pu sortir des pétisses comme ça. À des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, on leur disait que la France a apporté la civilisation.
Voilà, on racontait sans phare à des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, encore moins la langue du colon, que s'ils devaient soutenir la présence française dans leur pays, c'était parce qu'on les avait civilisés. Ce serait presque comique si on ne parlait pas de la mise au pas d'une société entière dont on tuait en masse les civils.
Et puis, l'école, elle reflète aussi la complexité des sociétés coloniales. Les enfants ressentent la hiérarchie, pas seulement entre colonisateurs et colonisés. Par exemple, Marguerite Duras se souvient de son enfance, lorsqu'elle était reléguée au fond de la classe en tant que fille de petit blanc, c'est-à-dire de colon pauvre. On trouve aussi des écoles réservées aux métis en Inde ou en Indochine, par exemple. Et même, l'école, ça peut être le lieu des oppositions aux colonisateurs. Des grèves scolaires y sont parfois organisées, comme en Indochine, où elles ne concernent pas ou peu les étudiants de l'université, mais des élèves plus jeunes. Les lieux de l'enfance sont des lieux politisés, où les tensions et la violence coloniale se jouent. Ce qui est vrai aussi, c'est que ceux qui sont passés par l'école française, ceux, pas celles, car les petites filles des pays colonisés étaient encore plus minoritaires, ceux-ci ont grossi les rangs de la résistance à la colonisation. Savoir le français, connaître au moins théoriquement la géographie et l'histoire de la métropole, avoir entendu scander la devise de la République, avoir, même vaguement, conscience que les choses ne se passaient pas de la même manière en France, au Royaume-Uni, au Japon, aux États-Unis que chez soi, tout cela a participé à forger un groupe capable de comprendre les ressorts de la domination coloniale et donc de la combattre, sur place comme dans le monde entier.
Si le court passage d'une très petite minorité d'enfants des pays colonisés par l'école a permis quelque chose, c'est donc cela. Une conscience particulière du fait que l'injustice dont ils et elles ont fait l'expérience est systémique. Que s'ils adhèrent à certains idéaux, la liberté, l'égalité, ils devront se battre contre les empires pour les obtenir.
Merci à tous ceux et toutes celles qui ont écouté ce premier épisode de la série sur les enfants en situation coloniale. Il est le fruit d'un travail collectif et vous trouverez des références sur la thématique sur la page de l'épisode. Et merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast Décolonisation. Dans quelques semaines, Aliénor et moi, nous vous retrouverons pour le deuxième épisode de la série. Avant cela, nous tenons à remercier Olivier, Marie et Studio 8 de l'Université Paris 8 et l'IDHES pour l'enregistrement du podcast. Pour la musique, merci aux musiciens de Peace Bay et Grogne. Pour les lectures, merci à Ménard. Un grand merci aux membres du GROC qui ont bien voulu présenter leurs travaux dans cet épisode, Lydia, Violette, Adélaïde, Marie, Thierry et Élise. Merci également à Charlotte Coureil. Pour le montage et le mixage, merci à la fabuleuse Manon Vaux. Manon travaille aujourd'hui bénévolement. Pour la soutenir et soutenir Décolonisation, vous pouvez faire un don au GROC, le groupe de recherche sur les ordres coloniaux, sur Hello Asso. Le lien se trouve sur la page de l'épisode. N'hésitez pas à le faire tourner. Merci et bonne écoute.
Spectre.